Vous êtes bien à l'écoute de RFI, il est tout juste 14h30 à Paris. Tout de suite, c'est Afrique Midi avec Simon Bourtembourg. Bonjour Simon.
Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Place à l'actualité africaine, nous sommes ensemble pour une demi-heure avec le journal pour commencer. Il est apparu hier soir tard à la télévision nationale. Moussa Dadis Camara est libre après avoir bénéficié d'une grâce présidentielle. La joie des proches de l'ancien chef de la junte guinéenne contraste avec la colère des victimes du massacre du grand stade de Conakry. À la une de cette édition également, un partenariat qui pose question. Les nouveaux passeports maliens siglés AES sont fabriqués en Europe et par une entreprise française pourtant fustigée par le régime malien. Une nouvelle attaque meurtrière au Burkina Faso. Nous le verrons, une cinquantaine de soldats et de volontaires pour la défense de la patrie ont été tués dans une base de l'est du pays. Et puis, en fin d'édition, nous serons au Cameroun où les récents mouvements au sein du RDPC de Paul Biya continuent de faire réagir. Mais avant de développer les titres, en Centrafrique, une grande cérémonie mobilise en ce moment de nombreux sympathisants du président Touadéra dans l'hémicycle de l'Assemblée. Le mouvement Cœur Uni, parti au pouvoir, commémore ce 30 mars la date anniversaire de la première et deuxième investiture du chef de l'État. Des manifestations et des meetings sont par ailleurs organisés dans les différents arrondissements de la capitale et dans certaines régions du pays. À quelques mois de l'élection présidentielle, mais aussi législative, prévue en décembre, les organisations qui soutiennent le pouvoir réclament donc au président Touadéra de se représenter pour un troisième mandat. Il aura donc passé moins d'un an derrière les barreaux. Dans la foulée de la grâce présidentielle qui lui a été accordée, Moussa Dadis Camara a été libéré. L'ex-chef de la junte guinéenne fut pourtant condamné l'an passé à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité pour avoir commandité le massacre d'opposants en 2009 dans le stade de Conakry. Alors que cette grâce surprise, justifiée par des raisons médicales, est accueillie ce week-end dans la joie par les proches et soutien de Moussa Dadis Camara, eh bien depuis vendredi soir, le domicile familial de l'ancien chef de la junte en banlieue de Conakry est en fête. Notre correspondant Tanguy Billan est allé à leur rencontre.
Au sein de la grande cour familiale, sous un chapiteau spécialement dressé pour l'occasion, de jeunes hommes en tenue traditionnelle de la Guinée forestière dansent à côté d'un groupe de femmes au son d'une chanson écrite à la gloire de Moussa Dadis Camara. Ce dernier est cependant absent, sont réunies une trentaine de personnes, des membres de sa famille, dont Joachim, son demi-frère. Il a pu voir Dadis vendredi soir après sa libération, avec une grande émotion.
C'était de la joie, le mot nous manque. Moi-même, quand je l'ai vu, j'ai dit que j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai dit, voici que Dieu a fait quelque chose de miracle devant moi, à mon vivant. Quand on l'a vu hier nuit, c'est bon, c'est très bien, bon, il est malade, mais grâce à Dieu, ça peut aller.
Déborah, une nièce de Dadis, tient à rendre hommage au bienfaiteur de son oncle.
Nous tenons à remercier le président, l'excellence Mamadi Doumbouya. La libération de Moussa Dadis a été faite par son accord. Vraiment, merci à son gouvernement. Sa libération est vraiment une grâce pour nous, une très grande grâce.
Un bœuf débarqué du coffre d'une voiture est sacrifié pour l'occasion. Il est partagé entre tous les membres de la famille en l'honneur de leurs parents désormais libres. Tanguy Billan, Conakry, RFI.
La joie donc des proches de Dadis Camara qui contraste avec la colère et la consternation qui anime une partie de la société civile et surtout les victimes du massacre du stade de Conakry. Mamadou Bailo Ba est président de l'association des familles des disparus du 28 septembre 2009. Très surpris donc par cette grâce présidentielle, il espère que des possibilités de recours existent encore.
Ça a été quand même une annonce surprise. Nous estimons aujourd'hui que le décret de grâce du capitaine Moussa Dadis Camara est un affront vis-à-vis de la mémoire des victimes du 28 septembre 2009. On s'interroge pourquoi cette grâce présidentielle, ça a été vraiment une annonce surprise. Nous aurions souhaité que ceux-là qui sont incriminés, qui sont coupables dans cette affaire, vraiment arrivent à purger leur peine. Nous attendons à ce que le gouvernement puisse vraiment nous aider à bénéficier de ces réparations. Et par après, on va voir qu'est-ce qu'il faut à travers nos avocats. Est-ce qu'il y aura une possibilité d'explorer autres juridictions nationales ou internationales pour que nous puissions vraiment, disons, prendre position par rapport à cette grâce présidentielle.
Mamadou Bailoba, président de l'Association des familles des disparus du 28 septembre 2009. La Guinée, comme le Tchad, le Sénégal ou encore la Côte d'Ivoire, où après 29 jours de jeûne, les musulmans célèbrent ce dimanche l'Aïd el-Fitr, qui marque donc la fin du mois de Ramadan. En revanche, ce sera demain pour les musulmans du Cameroun ou encore de Madagascar. En République démocratique du Congo, dans le Sud Kivu, l'avenir de la société aurifère DRC Gold Trading SA s'assombrit. Lancée en janvier 2023 en grande pompe par le président Tshisekedi, la compagnie ne peut plus opérer dans cette zone qui est désormais en grande partie contrôlée par l'AFC M23, la coalition politico-militaire soutenue par Kigali. Née d'un partenariat avec les Émirats Arabes Unis, DRC Gold Trading SA voit donc ses objectifs de production en or réduits à néant. Les explications avec Patient Ligodi.
Cette société devait permettre à la RDC de reprendre le contrôle sur l'or artisanal, en particulier dans l'est du pays, selon le gouvernement. Les premiers résultats ont été jugés encourageants. Dans la province du Sud Kivu, avant l'arrivée de la société, environ 25 kilos d'or artisanal étaient exportés officiellement chaque année. Un an plus tard, 5,6 tonnes avaient été exportées, générant environ 500 000 dollars de recettes selon des documents et sources consultées par RFI. Pour cette année, l'objectif était de 12 tonnes. Mais aujourd'hui, tout est à l'arrêt. Selon ses dirigeants, DRC Gold Trading ne sera plus en mesure de récupérer les 10 tonnes d'or attendues cette année dans le Sud Kivu en raison de l'occupation d'une partie de la province par l'AFC M23. Pourtant, l'exploitation artisanale continue, affirme plusieurs sources, mais les revenus ne transitent plus par les circuits officiels. Comment cette filière est-elle gérée actuellement dans les zones contrôlées par la rébellion? C'est l'une des questions que devaient poser les experts des Nations Unies cette semaine lors d'une mission sur place. Mais cette mission a été annulée par l'AFC M23.
Au Soudan, le chef des paramilitaires reconnaît que ses troupes ont perdu la capitale, ou plus exactement qu'un repositionnement a été opéré. Hier soir, dans sa première allocution depuis l'annonce de la reprise de Khartoum, le général Al-Bourhan a promis que ses forces se battraient jusqu'à la victoire sur les paramilitaires, affirmant que la guerre ne finirait que lorsque les FSR déposeraient leurs armes. Au Burkina Faso, une cinquantaine de soldats et de volontaires pour la défense de la patrie ont été tués dans l'attaque de leur base. Les faits se sont déroulés vendredi dans le camp militaire de la ville de Diapaga, à l'est du pays. Si le bilan humain est très lourd, l'armée a aussi perdu des armes et des munitions dans l'attaque. Après en avoir récupéré une partie, les assaillants ont mis à feu le reste du matériel. Le récit des événements avec Lisa Fabian.
Les assaillants sont arrivés à moto en grand nombre autour de 16 heures, rapporte la population. Ils ont encerclé la ville et ont commencé à tirer. Tout le monde s'est mis à l'abri, expliquent ces témoins qui décrivent une situation très tendue. Des tirs ont ensuite retenti près du camp militaire. Après un moment de résistance, les soldats ont dû l'abandonner. Les terroristes se sont servis dans les armes et les munitions. Après, ils ont mis le feu à ce qu'il restait, explique une source locale qui a pu visiter le site au lendemain de l'attaque. Le ratissage qui a suivi a permis de retrouver les corps sans vie d'au moins 30 soldats. Les volontaires pour la défense de la patrie qui étaient en formation à l'intérieur du camp ont quant à eux perdu 22 de leurs camarades qui ont été inhumés dès ce samedi. Mais ce bilan pourrait encore s'alourdir car plusieurs soldats manquent toujours à l'appel et les recherches se poursuivent pour les retrouver. Des commerces, le siège d'une société cotonnière et la prison civile ont aussi été visités par les assaillants qui ont incendié certains bâtiments. Des tirs d'obus ont visé la ville dans la matinée du samedi, selon un habitant qui décrit des scènes de désolation à Diapaga.
L'état-major général des armées burkinabé n'a pour sa part pas fait de communication sur cette attaque à ce stade. Un droit de douane sur les produits importés de pays non membres de l'Alliance des États du Sahel. Cette taxe de 0,5% a été annoncée hier par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ce droit de douane devrait logiquement s'appliquer aux marchandises du Ghana et du Nigeria qui ne sont pas membres de l'UMEO, au sein desquels la liberté de circulation et des marchandises est toujours de mise. Les pays de l'Alliance des États du Sahel, justement, qui ont donc mis en circulation de nouveaux passeports, et ce depuis 2 mois. Ces passeports viennent de remplacer les anciens documents qui étaient siglés CDAO. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso avaient en effet décidé de se retirer de l'organisation sous-régionale au nom de leur souveraineté nationale. Une souveraineté régulièrement brandie pour accuser la France d'ingérence. Et pourtant, comme l'a révélé le magazine Jeune Afrique, c'est une entreprise française qui fabrique les passeports maliens de l'AES. Ces dernières années, les autorités maliennes de transition avaient pourtant publiquement fustigé l'entreprise. Des explications de David Baché.
L'entreprise française IDEMIA, qui était chargée de collecter les données de recensement administratif RAVEC, avait été accusée de prendre en otage ces données. Ce qui avait officiellement justifié, en septembre 2023, le report des élections, prévues en février 2024. Plus d'un an après, et malgré la récupération de ces données, aucune nouvelle date n'a été fixée. L'année précédente, la justice du Mali de transition avait convoqué Jean-Yves Le Drian, ancien ministre français de la Défense puis des Affaires étrangères, et son fils Thomas, employé par IDEMIA, alors dénommé Oberture, pour des accusations d'atteinte aux biens publics. Les deux hommes ne s'étaient pas présentés. Malgré ces différends fortement médiatisés et qui avaient alimenté les accusations d'ingérence portées contre la France, Bamako n'a pas rompu le contrat conclu en 2015 avec IDEMIA pour la fabrication des passeports maliens. Olivier Charlane, porte-parole d'IDEMIA.
Les passeports maliens sont produits dans l'une des usines sécurisées du groupe, située donc au sein de l'Union européenne. Nous avons livré environ 25 000 passeports depuis le basculement fin janvier sous le nouveau design de l'AES. La production à venir dépend du besoin, dépend des demandes. Habituellement, nous livrons entre 12 000 et 16 000 passeports par mois environ.
L'entreprise française précise que le contrat en vigueur court jusque fin 2025 et qu'une éventuelle reconduction n'est pas envisagée à ce stade. Sollicité par RFI, le ministère malien des Affaires étrangères n'a pas commenté.
David Baché du service RFI et du service Afrique de RFI. Au Cameroun, les récents mouvements au sein du RDPC de Paul Biya continuent de faire réagir. En cette année électorale, et alors que le débat sur la succession du chef de l'État âgé de 92 ans gagne du terrain, eh bien des nominations ont été observées au sein du comité central, l'instance décisionnelle du parti. Michel Oyan est politologue et enseignant à l'université. Il analyse ces récents mouvements au sein du RDPC.
Il y a quand même certains grands absents qui brillent par leur non-présence sur cette liste. On peut par exemple remarquer qu'il n'y a pas le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Il n'y a pas aussi le ministre directeur du cabinet civil. Alors, est-ce que l'absence de ces noms signifie que ces personnes sont d'une certaine manière désavouées par le président de la République? Je pense qu'il faut se garder de toute analyse tendancieuse qui consisterait à voir les choses ainsi. Parce que si vous voulez, le système politique à Mouna est davantage un système bureaucratique, où la présence à une instance décisionnelle d'un parti politique ne signifie pas que vous avez tant que ça un poids politique. Il faut se rappeler de la situation du président Biya lui-même lorsqu'il devenait président de la République. Il n'était pas aussi investi que cela dans l'Union nationale camerounaise, l'UNC, qui était alors le parti unique. Donc, les personnalités qui n'ont pas été associées lors des dernières nominations ne doivent pas être considérées comme étant bannies de la scène politique ou même étant ignorées d'une éventuelle succession.
Des propos recueillis au micro RFI de Polycarpe Essomba. Peut-il désormais voyager librement? La justice sénégalaise donne en tout cas raison à Mansour Faye, le beau-frère de l'ancien président Macky Sall. Empêché par 2 fois de quitter le territoire sénégalais ces dernières semaines, Mansour Faye, maire de Saint-Louis, avait saisi le juge des référés à la chambre administrative de la Cour suprême. Les détails de l'affaire avec Juliette Dubois.
Mansour Faye, ancien ministre et maire de Saint-Louis, a été empêché à 2 reprises de quitter le Sénégal. Le 10 mars, alors qu'il s'apprêtait à se rendre à Djeddah, il a été informé de l'existence d'une interdiction de voyage émise par une autorité supérieure, je cite, sans plus de précision. Quelques jours plus tard, il a de nouveau été empêché d'embarquer pour Abidjan malgré l'obtention de sa carte d'embarquement. Mansour Faye et ses proches ont dénoncé une entrave à sa liberté de mouvement et l'homme politique a saisi la justice pour contester ces interdictions qu'il considère comme arbitraires et injustifiées. Le beau-frère de Macky Sall dénonce un acharnement politique depuis plusieurs mois. Selon son avocat, Maître Sall, il ne fait l'objet d'aucune poursuite. L'avocat prend donc acte de la décision en sa faveur, estimant que la justice a fait son travail et qu'il avait le droit avec lui. Mais selon la presse sénégalaise, l'État a déjà introduit un recours pour contester la décision du juge des libertés. D'autres proches de l'ancien président Macky Sall se sentent persécutés par les nouvelles autorités qui ont lancé une reddition des comptes de l'ancien régime. Des responsables comme Farban Gom ou Moustapha Diop ont vu leur immunité parlementaire levée. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Trois marins chinois sont portés disparus au large du Ghana. L'armée ghanéenne a fait savoir ce week-end ne plus avoir de nouvelles d'eux depuis que leur navire a été la cible jeudi d'une attaque présumée de pirates. Ils sont soupçonnés d'avoir été enlevés par les assaillants, selon l'armée. Les autorités ghanéennes partagent des informations à ce sujet avec les autres pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et puis un mot de sport et de football avec le coup d'envoi aujourd'hui de la CAN des moins de 17 ans. 16 nations sont en lice pour cette compétition qui se tient au Maroc, 9 mois avant l'organisation de la CAN et 5 ans avant la Coupe du Monde. Pour ce qui est de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, ce soir le match d'ouverture oppose le Maroc à l'Ouganda, coup d'envoi à 22h, temps universel.
Afrique Midi, Simon Bourtembourg.
Pour l'heure, il est midi 45 en temps universel. La suite d'Afrique Midi, donc, avec vos chroniques du dimanche. La lutte contre la pollution plastique au Mali, à la une de l'Afrique en marche. Frédéric Gara nous présente deux entreprises spécialisées dans le recyclage des déchets. À suivre également votre rendez-vous avec votre chronique littéraire du dimanche. Tirthankar Chanda donne la parole à Gaël Bellem, qui nous présente son dernier roman, Sud Sauvage. Et puis dans deux minutes, place à 100% création, qui met à l'honneur ce dimanche un artiste souffleur de verre. Donner une deuxième vie aux déchets plastiques, c'est le leitmotiv des entrepreneurs qu'a rencontré Frédéric Gara à l'Afrique en marche au Mali ce dimanche pour voir comment il est possible de valoriser les déchets qui envahissent le pays.
L'Afrique en marche.
Je suis Kumba Diakité, je suis la fondatrice de l'entreprise BeRecycle.
Bonjour, moi je suis Savou Doumbia, j'ai 27 ans. Je suis ingénieure télécom de formation et entrepreneur social et développement, principalement dans le domaine du recyclage des déchets plastiques.
Face à la pollution plastique, Kumba Diakité et Savou Doumbia, chacune dans leur structure, ne baissent pas les bras. Ces deux jeunes entrepreneuses à Bamako ont décidé de faire des sachets noirs qui jonchent le sol ou des pneus usagés jetés dans les caniveaux, des objets recyclés, des objets de valeur. Au sein de son entreprise, BeRecycle, Kumba Diakité transforme depuis 2018 des roues usées en caoutchouc en meubles élégamment décorés avec du wax ou bien du bogolan. Kumba Diakité.
Je me suis tournée vers le recyclage parce que j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses. J'ai fait une formation sur les enjeux de développement durable. Du coup, après cette formation, ça m'a donné envie de me tourner vers le recyclage. Nous revalorisons les pneus usagés. Nous faisons des mobiliers avec des chaises d'intérieur et d'extérieur, des poufs, des tables basses, des jouets pour les espaces de jeu pour les enfants. Nous faisons tout avec les pneus usagés.
À peu près 300 pneus recyclés par an, un chiffre qui peut paraître modeste au regard des déchets produits au Mali. Mais Kumba organise également des ateliers de formation pour les femmes sans activité qui transforment des sachets plastiques.
Donc, c'est des activités de tissage et de tricotage des sachets plastiques pour faire soit des sacs de course ou des objets de décoration avec. Ça permet à ces femmes de pouvoir faire des produits qu'elles peuvent vendre. Et on a déjà eu à former les femmes des deux camps, le déplacé, Faladje et Sinou.
Sabou Doumbia, elle, participe souvent avec Kumba à ses ateliers de sensibilisation et de formation sur le recyclage des déchets. Il y a 3 ans, Sabou Doumbia a créé une société EcoBuild qui recycle jusqu'à 14 tonnes de plastique.
EcoBuild est né de cette mission et aujourd'hui nous avons pour vision vraiment de promouvoir l'économie circulaire à travers le recyclage des déchets plastiques, surtout proposer des solutions et des matériaux utiles pour la population à des coûts vraiment raisonnables. Aujourd'hui, plus en plus de jeunes commencent à prendre acte sur l'impact de ces sachets plastiques sur l'environnement. Et je pense aujourd'hui, je dirais qu'il y a une amélioration parce qu'il y a une prise de conscience aussi minime que soit-elle qui est en train de se passer actuellement à Bamako. Avec Kouma, on a eu à collaborer sur différents projets. Et plus précisément, c'était tous avec cet objectif d'impact social et environnemental, la responsabilité sociale de la population vis-à-vis de ces déchets plastiques et les sensibiliser aussi à acheter les produits recyclés qui sont peu connus ici sur le marché.
Un travail de recyclage et de sensibilisation des populations à la question environnementale qu'accompagne Georges-Théodore Dougnon avec son ONG Cultural Survival.
Kumba et Sabou, je pense que c'est d'abord le fait d'être des femmes, c'est une très bonne chose. Et lorsque j'ai connu Kumba, je pense que c'est la première dame que j'ai vue en train de transformer les pneus, par exemple. C'était extraordinaire. Et c'est important parce que on a un peu tendance à voir peu de femmes dans ce domaine-là. Et aussi voir un peu le niveau de créativité et d'innovation qu'elles mettent dans leur travail, je pense que c'est bien. Et voir des gens qui sont là, qui font la récupération et la transformation, je pense que c'est bénéfique et ça inspire aussi d'autres personnes.
Sabou et Kumba commencent à mesurer l'efficacité de leur travail de recyclage. Prochaine étape pour Kumba Diakité, mettre au point un procédé de transformation des pneus usagés en granules pour fabriquer des sols souples.
L'Afrique en marche.
L'Afrique en marche avec Frédéric Garas et tous les dimanches sur RFI et quand vous le voulez sur notre site et notre application. Votre prochain journal sur la radio du monde, c'est dans 10 minutes, mais avant ça, un point sur les titres de l'actualité internationale. Chaque minute compte en Birmanie. Après le séisme de magnitude 7,7 qui a tué plus de 1700 personnes, les secours s'organisent. La junte birmane a lancé un appel à l'aide internationale, mais pour l'instant, les secours birmans sont seuls en première ligne. Les pires incendies de l'histoire de la Corée du Sud, au moins 30 personnes sont mortes et une étendue de flammes considérable dans le pays. Un suspect a été interpellé et pourrait être à l'origine des incendies. Des avancées ce dimanche dans les négociations entre le Hamas et Israël. Le mouvement islamiste palestinien dit accepter la proposition des médiateurs de restituer 5 otages. Israël en demande le double alors que les Israéliens sont eux descendus dans la rue pour faire pression sur le gouvernement. Et puis en Ukraine, Kharkiv sous les drones. La nuit dernière, 111 drones kamikazes russes ont été lancés par Moscou sur l'ensemble du pays. Volodymyr Zelensky appelle lui les alliés de l'Ukraine à mettre plus de pression sur la Russie. RFI midi 51 en temps universel comme tous les dimanches dans Afrique Midi. Voilà le moment de se plonger dans la littérature africaine avec Tirthankar Chanda. Ce midi, on s'intéresse à Sud Sauvage, le dernier roman de Gaël Bellem. À travers 13 contes, à mi-chemin entre le fantastique et l'étrange, l'auteure réunionnaise met en scène son île natale, une île qu'elle veut inquiétante. Tirthankar Chanda s'est entretenu avec Gaël Bellem.
Préfère l'impère, disait Verlaine dans son célèbre poème « Art poétique ». Vous avez écouté la recommandation du grand poète, puisqu'on compte 13 nouvelles dans votre recueil qui sort ce 3 avril.
Bien entendu, il se trouve, Pierre Tirthankar, que je suis athée. Mais même en étant athée, nous savons à quel point ce titre 13 est très important pour ceux qui sont croyants ou superstitieux. D'où le fait que j'ai choisi d'incorporer 13 nouvelles dans ce recueil qui parle de croyances, qui parle de mystères, qui parle de phénomènes surnaturels.
Vous avez aussi parlé de nouvelles horrifiques.
Oui, parce que certaines histoires tendent vers l'horrifique, mais le terme fantastique est beaucoup plus adapté. Ce sont des histoires fantastiques, ce sont des histoires troublantes, ce sont des histoires intrigantes, mais elles ne sont pas toujours naturelles. Jusqu'à un moment donné, on est amené à se dire, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que nos yeux ne voient pas? Mais c'était juste un recueil qui vous amène tout simplement à une interrogation, tout en respectant les croyances des lecteurs. C'est comme ça que je l'ai voulu, dis-moi.
Comment ne pas constater que derrière le fantastique, il y a chez vous une volonté de raconter votre réunion natale?
Il y a, depuis mon premier roman, un souci de peindre la réunion telle qu'elle est, de décrire les petites gens, parce que moi-même, je viens d'un milieu populaire. Mes ancêtres étaient pour certains des engagés, pour d'autres des esclaves. Dans ce recueil de nouvelles qui parle d'esclaves qui ont disparu, je veux revenir sur le passé colonial, le passé esclavagiste de la Réunion. Quand je parle d'un homme qui découvre cette tête, un homme qui est d'origine plutôt modeste et aux prises avec ses angoisses, avec une pléthore de superstitions, je veux montrer aussi ce qu'est la vie de ces petites gens à La Réunion. Il y a chez moi une appétence pour le social, ce souci du peuple dans tous mes textes, que ce soit des romans, que ce soit un recueil de nouvelles, et ça, ça ne changera pas.
Comment êtes-vous venue à l'écriture, Gaëlle Bellem?
Je viens d'un milieu très pauvre où il n'y a pas d'appétence particulière pour la littérature. J'ai l'habitude de dire que je viens d'une ville où il y a beaucoup de vent, une ville de l'est de La Réunion qui s'appelle Saint-Benoît. Les rares livres qu'il y avait chez moi servaient de cale-porte pour que les portes ne claquent pas à cause du vent. Et un jour, je me suis penchée vers un de ces livres qui était là et qui servait de cale-porte. Et j'ai décidé de l'ouvrir et de le lire. Il s'agissait de deux livres. Il y avait Flaubert, il y avait Balzac, Père Goriot, il y avait Madame Bovary. C'est comme ça que j'ai découvert la littérature avec ces auteurs du 19e siècle.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'un livre pour vous, Gaëlle Bellem?
Un livre est bien plus qu'une juxtaposition de feuilles griffonnées. Un livre est une déclaration d'amour à ses lecteurs, quel qu'il soit. Un livre est une mise à nu absolue de l'auteur qui a écrit ce livre et qui donc s'expose dans toute sa nudité, c'est-à-dire dans toute sa sincérité, dans toute son authenticité, dans toute sa fragilité à ses lecteurs. Un livre est un pont. C'est une invitation également au voyage.
La Suite sauvage par Gaëlle Bellem, c'est à retrouver dans la collection Continent Noir aux éditions Gallimard. Demain lundi marquera le début des journées européennes des métiers d'art. À cette occasion, nous nous penchons sur l'artisanat du verre en nous nous intéressant ce matin au Muse Vert, dédié donc au verre, mais aussi à son histoire dans le nord de la France. Rencontre donc avec Sofiane Msadek, il est au micro de Maria Afonso.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer.
J'ai toujours été touche à tout et quand j'ai vu le premier cueillage, donc première prise de matière dans le four, pour le verre, c'était, mais bah, je devais être là à ce moment-là.
Sofiane Msadek, artisan verrier et souffleur de verre.
En tant qu'artiste, j'aime beaucoup faire par moi-même. Là, pour le verre, c'est très particulier, il faut vraiment de la technique. Ma spécialité, c'est le soufflage à la canne.
Sofiane Msadek, artiste verrier, est né à Paris et a grandi en banlieue parisienne. Après avoir obtenu son baccalauréat, il s'oriente vers des études de cinéma et découvre l'art vidéo. Ce coup de cœur l'amène à la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg, où il s'initie au travail du verre. Passionné par la gestuelle et la chaleur de cet élément, Sofiane Msadek développe son propre style artistique. Actuellement installé à Nantes, il travaille dans un atelier tout en menant des projets personnels et des résidences artistiques comme celle du Muse Vert, dans le nord de la France, dédiée à l'histoire du verre. La technique de soufflage à la canne est au cœur de son travail. La chaleur du four, la fragilité du verre envoûtent et fascinent Sofiane Msadek.
Il faut être concentré. Quand tu prends la canne, même si elle dure 5 heures la pièce, ton esprit est que là pendant 5 heures. Les petites pensées parasites et tout ça, on peut louper la pièce. C'est assez intense niveau concentration. Il y a la matière donc qu'on a au bout de la canne, mais aussi les gens avec qui on travaille. On peut avoir un assistant ou une assistante, plusieurs, mais celui qui est sur le banc reste le chef d'orchestre. Il va donner les indications, quand il faut souffler, comment il faut chauffer. Donc on gère un peu tout en même temps. À force de travailler avec la même personne, il y a aussi une complicité qui se met en place et sans parler, on sait ce qu'on doit faire, avec aussi l'expérience de la matière.
Le verre est pour cet artiste une matière aussi fantastique que fascinante qui l'invite à l'échange.
C'est une discussion. Hein. Tout le monde le voit de manière fragile, mais il peut être aussi très dur. On peut avoir de la légèreté, il peut être fragile, mais avoir une pérennité dans le temps aussi. En un instant, la pièce peut disparaître. C'est un mélange de tout qui m'intrigue un peu. Et ouais, je crois que cette matière est quand même assez magique. Techniquement, j'ai autant envie de réussir à faire un gobelet que faire une pièce d'art ou une installation. C'est ça qui est intéressant avec cette matière, c'est que c'est un panel hyper large de possibilités.
Retrouvez l'univers de Sofiane Msadek sur RFI.fr, chronique 100% création, et en podcast sur RFI Pure Radio.
Maria Afonso pour refermer cette édition d'Afrique Midi. Merci à vous d'avoir été à notre écoute. Vous retrouverez demain Nicolas Sûr. Mais avant ça, le retour de l'actualité africaine, c'est à 18h30, temps universel. D'ici là, sur RFI, un nouveau journal international en français. Sauf en Afrique de l'Ouest, où vous attendent 30 minutes d'information en full day. Et en Afrique lusophone, vous avez rendez-vous avec une demi-heure d'information en portugais. Restez bien à l'écoute de la Radio du Monde.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
le cœur, mieux comprendre son fonctionnement.
Mardi,
maladies émergentes et infections, quel défi pour la recherche internationale.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Salut, c'est Assalfo. Et revoilà le FEMIA. La 17e édition du Festival de musique urbaine d'Anoumambo vous attend du 15 au 20 avril prochain à Abidjan et Daloa sous le thème civisme et sécurité routière. Cette année, vous aurez Angélique Kidjo, Caris, Smarty, Takana Zion, José Imra et plein d'autres artistes pour mettre l'ambiance. Le FEMIA, c'est aussi le volet social avec l'inauguration des écoles primaires Magic System de Badika, Jacquesville et San Pedro.
En partenariat avec RFI.
C'est ça qui est la vérité.